Europe 1. Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h tous les jours avec Thomas Hill et ce matin avec votre invité Thomas Bernard Montiel. À 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet.
Et on commence bien sûr avec le nerf de la guerre, hein, Bernard, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé.
Eh bien, c'est France 2 qui s'est imposé hier soir avec ce téléfilm La fille de l'assassin qui a été regardé par 4 200 000 téléspectateurs. La série Doc sur TF1, ça décolle toujours pas, 2 millions de fidèles seulement. TF1 était à 100 000 téléspectateurs derrière M6 et Top Chef hier soir. Et le documentaire consacré au président Pompidou, réalisé par Patrice Duhamel, qu'on a accueilli ici même hier, a fait un bon score. 1 700 000 personnes l'ont regardé.
Mal, hein.
Et c'est peut-être pas fini, parce qu'il y aura aussi le replay. À noter également que lors du journal télé de TF1 de Gilles Boulot, l'arrivée de Gabriel Attal vers 20h15 a boosté les audiences. Plus 700 000 précisément à ce moment-là. On est monté à 6 100 000 téléspectateurs pour le Premier ministre.
Europe 1, le journal des médias.
Et puis on commence ce journal avec cette affaire révélée par l'hebdomadaire Télérama. France Télévisions a été condamné au prud'homme à verser plus de 80 000 euros à un ancien présentateur de France Info.
Il s'appelle Gaël Giordana. Il estime que France Télévisions, où il est arrivé en 2021, a brisé sa carrière. De 2021 à 2023, il a enchaîné plus de 70 CDD pendant 2 ans avant de se faire licencier. Bon, ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Pendant ces 2 années, il affirme avoir dû essuyer des remarques sur son homosexualité, avoir dû faire face à des gestes, à des propos inappropriés de la part de cette collègue avec qui il co-animait la matinale de France Info, Camille Grenu, qui elle est en CDI et qui est en couple avec le rédacteur en chef de l'émission Télématin. Une enquête interne a d'ailleurs reconnu des maladresses. Cette condamnation de France Télévisions pour harcèlement moral et sexuel et licenciement nul a été prononcée en janvier, mais ce n'est que cette semaine que Gaël Giordana a décidé de sortir du silence et de raconter son histoire.
Et puis autre sujet qui fait du bruit en ce moment, évidemment, vous en parlez aussi dans TPMP régulièrement, c'est le feuilleton de cette fin mars, le conflit Inès Reg, Natacha Saint-Pierre dans les coulisses de Danse avec les Stars.
Alors, est-ce qu'on se dirige vers une réconciliation en vue de la prochaine émission qui a lieu demain soir? L'animateur Camille Combal a jugé mardi soir que l'incident qui a débouché, on le rappelle, sur deux mains courantes, sur des accusations de racisme et de menaces de mort, était clos. Mais hier, on a pu constater que le feu n'était peut-être pas éteint. Natacha Saint-Pierre a fait un post sur Instagram qui n'avait a priori pas de rapport avec l'histoire. Un post qui disait ceci: bon, j'ai besoin de savoir dans quel camp tu es. Tu dis pain au chocolat ou chocolatine? Cette story a curieusement disparu quelques instants plus tard. Alors, d'après le journaliste indépendant Clément Garin, Inès Reg se serait plainte à la production qui a ensuite demandé à la chanteuse canadienne de tout supprimer. Elle n'aurait pas apprécié en fait de constater, de voir que Christophe Licata, son partenaire de danse, avait répondu à cette question de Natacha Saint-Pierre.
Ah oui, d'accord.
Est-ce que vous suivez toujours? Est-ce que vous en avez marre?
C'est Dallas.
Non, mais Camille Combal avait dit c'est pas Dallas, il dit c'est Dallas, justement.
Ouais, c'est Dallas.
Non, en fait, c'est la haine totale. Ils vont être très emmerdés.
Chaque jour, un nouvel épisode.
Et tous les dossiers contre Inès Reg sortent. Parce que là, on parle aussi d'Inès Reg et de son mauvais comportement dans Masked Singer.
Absolument, avec Chantal là-dessous.
Avec Chantal là-dessous, ils se sont engueulés aussi très violemment.
Un amour de femme, donc c'est quand même assez surprenant.
Ouais,
apparemment, elle
n'a
pas apprécié les blagues de Chantal là-dessous.
Voilà, comme à l'époque, c'était Valérie Trierweiler aussi dans Pékin Express.
C'est assez étonnant, c'est vrai, une humoriste qui n'apprécie pas les blagues des autres. Ça, c'est assez surprenant.
Une autre humoriste, en l'occurrence aussi. Est-ce que ce Dallas qui se transforme en Dallas, ça vous donne encore plus envie de regarder le Prime de TF1 vendredi soir? J'ai posé la question à des jeunes téléspectateurs. Tous ont au moins entendu parler de l'histoire sur les réseaux sociaux, mais qu'en pense-t-il exactement?
Bof, hein, j'ai pas super envie de suivre. Hein. Les coulisses, c'est un peu gênant. J'ai regardé les stories d'Inès Reg et c'est un peu dur de savoir qui a tort, qui a raison, qui a menacé qui.
Curieusement, ça me donne encore envie de regarder l'émission, juste pour savoir si ils vont en parler. S'il y aura une vidéo, s'il y aura un bandeau.
Ben moi j'adore ça, je trouve que ça fait un peu de drama, un peu de croustillant et ils en ont besoin. J'avais arrêté de regarder Danse avec les Stars.
Je vais être honnête, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu croustillant par rapport à la chose. C'est vrai que ça peut être assez drôle de loin, mais par rapport à ce qui est accusé, je trouve que c'est un petit peu grave.
Je regardais assez souvent quand j'étais petite, je suis moi-même danseuse en fait, et de voir que ça a évolué d'une compétition de danse à... une histoire de, enfin des plein d'histoires de ragots et tout comme ça, c'est désolant quoi.
Bon voilà, les avis sont contrastés.
C'est vrai que c'est difficile de savoir si c'est positif ou non pour TF1 finalement. Ça fait du buzz, mais en même temps ça casse un peu l'image familiale du programme.
Ah ben complètement, parce que ils vont ramer quand même, c'est très important, toujours la cohésion, l'esprit d'équipe, on est tous ensemble, les images sont belles, etc. Et en fait ils se détestent. Non, ça fait pas plaisir,
mais
c'est vrai que ça fait du buzz.
Et si l'une des deux va en finale, là aussi ça va être dur à gérer ça. Hein.
On verra les audiences vendredi soir, on rappelle que les premiers numéros ont été suivis par près de 4 millions de téléspectateurs. Là pour les derniers, on était plutôt aux alentours des 3 millions.
Et puis la commission d'enquête d'attribution des fréquences de la TNT auditionnait hier l'animateur de l'émission Quotidien, Yann Barthès, ainsi que Laurent Bon, son coproducteur.
On rappelle que le pluralisme dans les médias est l'un des thèmes principaux de cette commission d'enquête et que cette audition avait lieu à la demande de députés du Rassemblement National qui s'estiment mis de côté par cette émission Quotidien. Laurent Bon, tout d'abord, a estimé que si les membres du RN n'étaient pas invités, c'est parce que les journalistes de l'émission se sont vus interdire l'accès aux réunions publiques ou aux meetings du parti.
Toutes les violences que je mets à disposition de Monsieur le Président, c'est, vous voyez, si on nous demande de vous recevoir, si c'est la loi, évidemment on le fera.
Et ensuite, l'animateur de télévision Yann Barthès s'est permis de poser cette question aux députés de RN.
Non, je voulais savoir pourquoi vous vouliez absolument venir dans une émission qui ne vous plaît pas. Déjà. Ensuite, en effet, on a la liste.
Ouais, non, mais malheureusement, c'est aux députés de poser les questions dans les commissions d'enquête, donc c'est un peu délicat.
Il aura essayé. Et Yann Barthès et Laurent Bon ont assumé ne pas inviter de membres du RN en plateau. Selon eux, les règles d'équilibre du temps de parole sont malgré cela parfaitement respectées. Je reprends leur formule. J'ajoute, Thomas, que le milliardaire Rodolphe Saadé, dont le groupe CMA-CGM possède le journal La Provence, a également été entendu hier à huis clos, quelques jours après cette grève de 3 jours des journalistes du quotidien marseillais qui protestaient contre la mise à pied pour 2 jours de leur directeur de la publication. Il a rappelé devant les députés qu'une charte d'indépendance éditoriale et de déontologie allait être prochainement signée à La Provence.
Et puis Frédéric Lopez annonce souffrir d'une maladie évolutive.
Ouais, l'animateur qui nous a donné rendez-vous en terrain connu, qui nous invite tous les dimanches à la campagne, souffre d'autospongiose. C'est une maladie évolutive qui altère l'audition. C'est ce que Frédéric Lopez, 56 ans, a confié à Michael Zoltobroda de Varmatin. L'animateur avoue ne plus rien entendre de l'oreille droite, malgré une opération il y a 5 ans. Quant à l'oreille gauche, elle ne fonctionnerait qu'à 50%. Ajoutez à cela des acouphènes. Pour la première fois, il a signalé, Frédéric Lopez, qu'il portait un appareil auditif. Il envisage même pour l'avenir d'apprendre la langue des signes. Oui, on en est là. Cet article de Varmatin nous apprend également que Frédéric Lopez ne serait pas le seul animateur à porter une prothèse auditive. C'est le cas aussi, selon l'article de Christophe de Chavannes.
Et puis, qui va prendre la direction des rédactions du journal économique Les Échos? Un candidat très sérieux vient d'apparaître dans la course.
Alors que ce poste est vacant depuis un an, Mathieu Gallet, nouveau président du conseil de surveillance, a proposé un nom hier après avoir rencontré de nombreux candidats depuis le début de l'année. Le nom de Christophe Jakubicin, sa candidature sera présentée au vote du conseil de surveillance dans le courant du mois d'avril. D'ici là, il rencontrera dans les jours qui viennent des membres de la rédaction des Échos pour faire connaître son projet et ses ambitions. Ancien directeur éditorialiste politique sur RMC et BFM TV, Christophe Jakubicin est aussi passé par la rédaction de TF1. Il en a été le chef du service politique et depuis 5 ans, il présente Good Morning Business sur BFM Business. Mais d'après une information du média L'Informé, eh bien, il devrait quitter la chaîne BFM Business prochainement.
Merci beaucoup, Julien, pour ce journal.
On n'a même pas le temps de finir.
Je m'arrête.